Jean chapitre 19, et puis nous allons lire les versets 28 à 30. On a déjà lu le contexte. Jean 19, verset 28 nous dit: après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consumé, dit: afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là une vase pleine de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Parce que Jésus, bien sûr, est à une certaine hauteur, donc pour pouvoir lui donner de ce vinaigre, ils doivent approcher l'éponge à sa bouche. Et ils utilisent cette branche pour le faire. Et quand Jésus prit le vinaigre, il a dû le goûter un peu. Il a dit: voilà, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc comme vous voyez, le titre de mon sermon ce matin, c'est « Sa soif dans ma place ». Et je voudrais que nous considérions cette soif de mort de Jésus et le cri qu'elle a engendré. Et nous allons considérer d'abord le caractère de cette soif et deuxièmement les motivations pour l'expression de sa soif. Donc, considérer d'abord le caractère ou la nature, on peut dire, de sa soif. Et on peut dire tout simplement qu'elle était réelle. Elle était réelle, c'est-à-dire elle n'était pas imaginée. Jésus a vraiment souffert là sur la croix. Il y a un aspect spirituel que nous allons considérer plus tard, mais je voudrais maintenant souligner le fait que c'était une soif physique. Jésus n'avait pas probablement bu depuis le jour avant, lors du dernier souper avec ses disciples. Et déjà dans le jardin, il suait tellement sévèrement que Luc 22, verset 44, nous dit: « Sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Ceci, aucun doute, a été accompagné d'une déshydratation critique. Et alors, il n'obtient aucun repos pendant la nuit. En fait, il est battu, il est fouetté, et ça s'est sans doute accompagné d'une perte importante de sang, qui naturellement signifie encore plus de déshydratation. Et puis, il est forcé à porter sa propre croix, vous vous souvenez, jusqu'au point que sa force usée, hélas, il n'en peut plus, et donc les soldats romains choisissent quelqu'un d'autre pour la porter à sa place. Et c'est alors qu'il est cloué, là, au milieu du jour, dans la chaleur du jour, à une croix. Et les trous des clous entraînent encore une plus grande perte de sang, et encore une plus grande douleur. Et donc, sans aucun doute, il avait soif. Cette soif était réelle, et quelque chose que j'imagine aucun parmi nous peut dire qu'on connaît personnellement. Et puis je veux simplement remarquer qu'elle était aussi humaine. Elle était réelle, mais elle était humaine. Vous savez que Dieu n'a jamais soif. Dieu est esprit, il n'a pas de corps comme nous. Dieu ne parle jamais d'avoir soif. Et par contre, Jésus dit: j'ai soif. Et c'est une des vérités les plus merveilleuses dans la Bible qui nous parle de la sublime doctrine de l'humanité de Christ. Quelqu'un dit que les non-chrétiens ont souvent difficulté à accepter la divinité de Christ, mais les croyants ont souvent de la difficulté à accepter l'humanité de Christ. Mais son humanité est exactement comme la nôtre. Hébreux chapitre 2 nous dit: « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il, c'est-à-dire Jésus, y a également participé lui-même, comme nous, au sang et à la chair. » Vous savez, il n'y a rien dans la Bible pour faire croire que Jésus a connu une enfance protégée des bleus, des blessures, de la fatigue, de la tristesse. Il était un enfant comme tous les autres. Isaïe nous parle de ses meurtrissures, mais on ne doit pas reléguer ses blessures à la dernière journée de sa vie. Et vous savez, c'est pour ça qu'il peut compatir avec nous. Il nous connaît pas simplement comme créateur qui nous a créés, mais en tant qu'une partie de la création lui-même. Il fait partie de la création en tant qu'être humain. Et c'est pourquoi Hébreux chapitre 4 nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Non, pas du tout, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, ou testé, sans commettre de péché. Donc, je vous dis ce matin, êtes-vous fatigué? Jésus a subi de longues journées et des courtes nuits. Il sait ce que c'est d'être fatigué. Alors, sentez-vous abandonné? Vous savez, Jésus sait ce que c'est d'être trahi par un proche et abandonné par le reste. Sentez-vous mal compris? Jésus sait toujours ce que c'est d'avoir ses paroles tordues dans tous les sens pour dire n'importe quoi. Et l'injustice que Jésus a subie, il a mené jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et les souffrances qu'il a connues n'ont pas atténué et n'ont pas diminué jusqu'à sa mort. Et donc je crois une des leçons qu'on peut tirer de cette vérité, que ce n'est pas toujours la volonté de Dieu de guérir les maladies ou d'enlever les douleurs de ses enfants. Hein, je vais le répéter parce que c'est important. Ce n'est pas toujours la volonté de Dieu de guérir les maladies ou d'enlever les douleurs de ses enfants. Il se peut que cette maladie dont vous souffrez, ou cette circonstance démoralisante, durera jusqu'à votre lit de mort. Mais si c'est le cas, sachez que Jésus, comme un souverain sacrificateur, peut tout à fait compatir avec votre faiblesse ou vos douleurs. Car il a été tenté comme vous en toutes choses jusqu'à la mort de la croix. Bien sûr, c'est l'homme qui a péché et donc c'est l'homme qui doit mourir. Et donc ce cri de soif nous assure que c'est un homme qui est en train de mourir sur la croix. Et vous savez, il reste aujourd'hui entièrement humain. Jésus est toujours humain, toujours divin, oui, mais toujours humain. Et il se rappelle toujours ce que c'est d'avoir soif ou d'avoir faim ou d'être fatigué ou abandonné. Il peut compatir ce matin avec vos douleurs. Donc cette soif était réelle, elle était humaine, mais aussi nous voyons dans le verset 28 qu'elle était prédite. Regardez le verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consumé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. On va revenir tout à l'heure, mais déjà nous voyons que sa soif a un rapport avec l'Ancien Testament, c'était prédit. Sa soif était comme un panneau indicateur, encore un de plus pour indiquer, voilà, c'est celui que nous avons attendu, c'est le Messie, c'est le Christ. Et le fait que sa soif était l'accomplissement d'une prophétie dans l'Ancien Testament démontre que Jésus est le Sauveur que Dieu avait promis. Et je voudrais que nous regardions quelques-unes de ces prophéties. Donc si vous avez vos Bibles, tournez d'abord au psaume 22. Nous sommes 22 et notez comment ce psaume commence. Nous allons regarder plusieurs psaumes ensemble. Verset 2, je crois, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous voyez ça? On peut conclure donc que Jésus était certainement préoccupé avec ce psaume quand il était sur la croix, parce qu'il va bientôt citer cette phrase qui vient directement de la Bible, de l'Ancien Testament. Et puis regardez le verset 7. « Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le mépris du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. » Et puis regardez le verset 16. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats me rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent et se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Encore des prophéties qui ont été accomplies le jour de la mort de Jésus. Mais notez s'il vous plaît le verset 16. Ma force se dessèche comme l'argile, comme un morceau de poterie. Et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Ça parle de sa soif ici, n'est-ce pas? J'ai lu plusieurs descriptions médicales de ce que c'est de mourir, de la soif. Une des choses mentionnées, c'est le gonflement de la langue, au point que l'individu a constamment la sensation qu'il est en train d'être étranglé. Et ça doit être un peu comme cette description au milieu du verset 16. « Et ma langue s'attache à mon palais, tu me réduis à la poussière de la mort. » C'était une soif de mort que Jésus a connu. Donc voici sa soif est prédite. Et puis tournez maintenant au psaume 69. Psaume 69. Ceci est étonnant parce que c'est pas seulement la soif, mais la boisson qu'on lui a offerte qui est prédite. Notez le verset 5 du psaume 69. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Vous pouvez écrire Jean 15, 25 à côté de ce verset parce que Jean 15, 25 nous dit « Mais cela est arrivé afin que s'accomplit la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. » Une référence à ce verset. Notez le verset 10. « Car le zèle de ta maison me dévore. » Vous pouvez écrire à côté de ce verset Jean 2, verset 17, qui indique ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Et puis maintenant, notez le verset 21 et 22. « L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Et vous pouvez mettre près du verset 22, Jean 19, verset 29, qui indique « Il avait là une vase de vinaigre. » Hein, c'était un vin au vinaigre, un vin bon marché pour les pauvres, mais très amer. Et les soldats ont rempli une éponge et l'ayant fixé une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand vous lisez le contexte du psaume 69, « J'attends la pitié, mais en vain des consolateurs et j'en trouve aucun. » Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour m'apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Ils suggèrent que ce que les soldats ont fait en remplissant cette éponge de vinaigre et en l'approchant de sa bouche était fait par moquerie et pas par pitié. Et Luc confirme que c'était le cas parce que Luc nous dit en chapitre 23 que le peuple se tenait là. Et regardez, les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé des autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui, présentant du vinaigre, ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Voyez, les soldats se moquaient de lui, s'approchant de lui, présentant du vinaigre, ils disant « Si tu es le roi des rois, sauve-toi toi-même. » Donc ce n'était pas fait par pitié, c'était fait par moquerie. Jean de La Fontaine, le poète français fameux pour ses fables de La Fontaine, a écrit « Il ne faut jamais se moquer des misérables, car qui peut s'assurer d'être toujours heureux ?» Mais c'est exactement ce qu'ils font. Le misérable, là sur la croix. Et pour la première fois, et je vous dis, c'est la première fois qu'il exprime, et il n'a qu'une facette de sa douleur, et il reçoit qu'une éponge trempée dans du vinaigre, étendue à sa bouche comme signe de moquerie et de raillerie.
Mais je peux vous assurer qu'une éponge pleine de vinaigre ne va pas étancher la soif d'un tel homme. Donc en considérant la nature de sa soif, nous voyons qu'elle était réelle. Jésus a vraiment souffert. Elle était humaine, il était un homme, elle était prédite, il était celui promis par l'Ancien Testament. Et puis, puisque vous êtes en somme déjà, regardez le psaume 42. Le psaume 42. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Voyez ça, le verset 3, mon âme a soif de Dieu. Il y a certains qui ont suggéré que Jésus pensait aussi à ce verset, d'avoir soif de Dieu. Je l'ai lu pour faire cette prochaine remarque, que sa soif n'était pas pour lui-même, mais c'était pour autrui, c'est-à-dire pour les autres, pour quelqu'un d'autre qu'il a souffert cette soif. La soif physique dans la Bible est utilisée souvent pour représenter la condition spirituelle d'une âme qui est séparée de Dieu, une personne séparée de Dieu. Et le pécheur, il est coupé de la seule source de vie, la seule source de joie, et donc on l'appelle atterré. Il a soif parce qu'il ne connaît pas Dieu. Et puis, réciproquement, ceux qui viennent à Dieu sont comparés à ceux qui boivent d'une fontaine d'eau fraîche. Nous trouvons ça dans le psaume 1, Jésus avec la femme samaritaine, en Jean chapitre 4 aussi, et ailleurs. Je vais vous lire quelques versets dans les psaumes. Le psaume 36 parle de ceux qui sont vraiment bénis dans ces termes. Écoutez, tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie, versets 9 et 10. Le psaume 63 nous dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Le psaume 84, « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. » Le psaume 143, « J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. » Ou, comme vous voyez là dans le psaume 42, verset 2, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face de Dieu? Et tandis que nous ne voulons pas diminuer les aspects physiques de cette soif, nous ne pouvons pas nier le fait que Jésus, qui était bien sûr au courant de toutes les analogies de l'Ancien Testament, et qui était très sensible aux réalités spirituelles qui l'entouraient, nous ne pouvons pas nier le fait qu'il était entièrement conscient et contemplait même la soif bien plus grande que d'être séparé de son Père. Et je dis ça parce que dans l'ordre chronologique, la prochaine phrase qui sort de la bouche de Dieu, c'est celle-ci. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ainsi, tandis que la soif était vraiment physique et accompagnée de toute l'agonie qu'une soif de mort apporte, la soif que Jésus a connue était bien plus grande que ça, parce que Jésus lui-même, qui est lui-même, bien sûr, la fontaine d'eau vivante, a été pour la première fois coupé de sa seule source de réjouissance, de bonté, de vie, d'amour, le regard, l'amour de son Père. Et 1 Pierre explique qu'il a souffert physiquement et spirituellement dans notre place. Pierre nous dit, Christ donc ayant souffert pour nous dans la chair, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Et c'est dans ce sens aussi que sa soif était pour autrui. Physiquement et spirituellement, Parce qu'en enfer, il y aura les deux. Connaissez l'histoire, ne tournez pas, mais en Luc chapitre 16, où il y a l'homme riche et puis l'homme pauvre. Et la Bible dit que le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Mais dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare, c'est le pauvre, dans son sein et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. » Vous voyez la soif qu'il connaissait. Le puritain anglais Matthew Henry l'a mis dans ses mots. Les supplices de l'enfer sont représentés par une soif violente dans la plainte du riche. Il parle ici de Luc chapitre 16. De l'homme riche qui a prié pour une goutte d'eau afin de refroidir sa langue. À cette soif éternelle, nous aurions été tous condamnés si Christ n'avait pas souffert sur la croix. L'enfer est décrit comme un endroit de soif violente. Et bien que Jésus ne s'est jamais rendu en enfer, il a éprouvé cette soif violente afin que nous puissions voir de l'eau vivante pendant l'éternité. La soif violente de l'enfer est à la fois physique et spirituelle, comme j'ai dit, et ainsi la soif de Jésus-Christ sur la croix, étant pour autrui, était physique et spirituelle. Et vous savez, la tragédie de tout cela, c'est que nous sommes nous-mêmes la cause de cette soif. Nous sommes nous-mêmes la cause de cette soif. Et Jérémie chapitre 2 explique pourquoi Dieu dit, « Car mon peuple a commis un double péché. D'abord, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Et puis voilà pourquoi c'est un double péché. Ils sont allés se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Vous voyez, nous sommes nous-mêmes la cause de cette soif. Au lieu de chercher l'eau vivante en Christ, nous allons ailleurs pour la chercher. Dans des citernes crevassées. Et dans chaque âme inconvertie, il y a un vide. C'est faible peut-être, mais c'est une petite indication de la soif violente qu'ils éprouveront tout au long de l'éternité. Mais quand même, ce vide les pousse à chercher de l'eau. Ils cherchent de l'eau, ils cherchent quelque chose pour satisfaire l'âme. Et au lieu de se rendre à la source d'eau vive, ils vont se creuser des citernes où il n'y a pas de l'eau. Ils essayent l'argent, ils disent « Bon, l'argent, ça va me satisfaire. » Et bientôt, ils réalisent que les richesses sont souvent accompagnées d'une vie sans signification et un cœur vide. Et donc, ils changent d'avis. « Oh, c'est plus l'argent, c'est des relations, des amis, la famille. » Et ça ne prend pas longtemps pour voir que ces relations déçoivent. Et puis ils disent, oh, peut-être c'est l'éducation. Donc ils cherchent diplôme après diplôme, mais ils restent inchangés. Ils disent, oh, ça doit être le divertissement. Je dois m'amuser peut-être. Et ils réalisent bientôt que ce n'est pas ça non plus. Ils disent, oh, je vais m'abandonner à une vie licencieuse et immorale. Certainement là, je trouverai du plaisir. Et ils trouvent que c'est des citernes crevassées. Et vous savez, il y a même des gens qui disent, bon, ça doit être trouvé dans la moralité, dans la religion. Donc ils cherchent dans la religion et dans une vie morale, soi-disant. Certainement, il y a de la satisfaction dans cette vie. Et pourtant, le vide persiste. Et la Bible dit que même ce désir, même cette action de chercher, même ces efforts d'étancher leur soif sont en eux-mêmes le péché. Pourquoi ? Parce qu'ils creusent dans des citernes crevassées, fissurées, qui ne retiennent pas l'eau. Ils ne vont pas à Jésus-Christ. Alors où allez-vous ce matin pour chercher cette satisfaction ? Jésus a connu cette soif, il a connu même la séparation de Dieu, son Père, la seule source de joie pour lui-même. À votre place, où allez-vous chercher votre satisfaction dans la vie? Le Christ a souffert cette soif dans notre place. Et vous savez, pour les chrétiens, Apocalypse nous dit que ceux qui sont en Christ au ciel, ils n'auront plus faim. Regardez ceci. Ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point. Ils n'ont aucune chaleur, car l'agneau est au milieu du trône, les pétra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Voilà pour ceux qui sont en Christ. La nature de sa soif, elle était réelle, humaine, prédite. Elle était pour autrui. Et puis deuxièmement, considérer la motivation pour exprimer sa soif. Pourquoi a-t-il dit « j'ai soif » hein, pourquoi a-t-il dit cela? D'abord, il faut comprendre qu'il n'a pas dit cela afin de soulager sa douleur. Ce n'était pas sa motivation. Ce que je veux dire, c'est ce cri « j'ai soif » n'était pas l'impulse irréfléchie d'un corps desséché qui désirait ardemment étancher sa soif. C'était pas ça du tout. C'était prémédité. C'était intentionnel. C'était même réfléchi. Si vous regardez en Jean, si on retourne en Jean chapitre 19 et le verset 28, il nous dit « après cela, Jésus qui savait ». Vous voyez ça? Ou Jésus sachant serait bien mieux. Après cela, Jésus sachant quelque chose. C'était à cause de quelque chose qu'il savait dans son esprit. Il avait une certaine connaissance. Et c'est cette connaissance qui lui poussait à crier « j'ai soif ». Regardez Jean 19, 28. Après cela, Jésus qui savait quoi? Que tout était déjà consumé. Ça parle de sa mission. Et donc on peut dire que la motivation qui a engendré cette cri de soif était d'abord sa connaissance intime de sa propre mission. Jésus était le seul ce jour-là. Si vous pensez à toute la foule qui était réunie, même les disciples, même sa mère, même ceux qui l'aimaient, réunis autour de la croix qui le regardaient, Jésus était le seul qui se rendait entièrement compte de la signification de sa mort. Tous les autres n'ont mal compris ce jour-là. Lui seul comprenait pourquoi il est venu, pourquoi il était là, pourquoi toutes ces choses étaient maintenant accomplies. Et il avait démontré cette intime connaissance de sa mission tout au long de son cheminement à la croix. Par exemple, si vous regardez Jean chapitre 13 et verset 1, la Bible nous dit « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer dans ce monde au Père. » Il savait que son heure était prête. Et puis regardez le chapitre 17, Jean 17 et verset 1, c'est pas loin du Jean 19. Jean 17 et verset 1. « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, l'heure est venue, je sais que maintenant c'est le temps. » Et puis regardez le verset 4 du Jean 17. « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Voici maintenant la fin de ma vie terrestre. » Il était au courant, il savait, il connaissait sa mission. Et puis regardez le chapitre 18 et le verset 4. Jésus, sachant, le même mot, sachant tout ce qui devait lui arriver. Vous voyez, c'est clair que Jésus, en venant à la croix, n'a pas été pris au dépourvu par une tournure tragique, mais il était entièrement conscient de sa mission et sa place dans le grand plan de la rédemption. Il était entièrement conscient de l'importance de sa mission et de tous les éléments, même au plus petit détail. Il y inclut même une connaissance exacte de toutes les prophéties de l'Ancien Testament et comment ils devaient être accomplis. Et c'est presque comme s'il les énumérait dans son esprit. Et donc c'est pourquoi, regardez le verset 28 du chapitre 19. « Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consumé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie. » J'ai soif. Il était motivé par une connaissance de sa mission et aussi par une connaissance de lui-même. Il se connaissait. Jésus connaissait sa propre identité. Il savait que ses prophéties parlaient de lui. Et c'est très important à faire cette remarque, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent dire, vous savez, Jésus-Christ, non, il ne se pensait jamais Dieu, il ne se pensait jamais être un Messie, il n'a jamais dit qu'il était le loin de Dieu. C'est vous qui avez tordu le message de Jésus pour le faire Christ. Le message de Jésus, pardon, pour le faire Christ. Ah non, pas tout, il savait qu'il était. Et en disant « j'ai soif » comme un acte de conformité à la prophétie de l'Ancien Testament, toutes ces prophéties de l'Ancien Testament, il parle de moi, c'est ça qu'il est en train de dire. Il parle de moi, vous voyez, ça parle de moi ces prophéties. C'est moi qui ai promis, c'est mes souffrances qui correspondent exactement aux souffrances prédites dans l'Ancien Testament. Voyez-vous là ce qu'il dit? Il dit, regardez, c'est pas par coïncidence, c'est pas par hasard. C'est la manière qui a toujours été prévue. Regardez-moi, j'accomplis toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Jusqu'au moindre détail, même le fait de recevoir du vinaigre pour boire. Jésus avait toujours compris son identité. Vous n'avez pas besoin de le chercher, mais Jean 7, verset 37... nous dit que le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Vous voyez, il se pensait la source d'eau vive. Il a dit plus ou moins la même chose à la femme samaritaine, en Jean chapitre 4. Et maintenant, en disant « j'ai soif », il affirmait qu'il endurait la soif que nous méritons, afin qu'il pourrait librement nous offrir son eau vivante, que nous ne méritons pas. Et donc il était motivé par une connaissance intime de sa mission, une connaissance intime de soi-même comme le Messie de Dieu. Mais il était aussi motivé par un désir ardent de se conformer entièrement à la parole de Dieu, même dans des circonstances les plus difficiles. C'est ce qu'il voulait faire, il voulait se conformer à la parole de Dieu. Même étant là sur la croix, il voulait se conformer à la parole de Dieu. Vous savez, vous n'avez jamais vu une crucifixion, ce qui est une bonne chose pour vous, mais les crucifixions étaient normalement caractérisées par des jurons violents, des hurlements incohérents. Et ce qui est étonnant concernant cette crucifixion est l'approche délibérée, soigneuse, déterminée, même réfléchie de Jésus-Christ, même sur la croix. Il ne se donne pas aux sentiments. Ce ne sont pas des délires d'un lunatique. Ce sont des mots réfléchis d'un homme entièrement en contrôle de toutes ses facultés mentales et verbales, est motivé par un raison d'être incontestable. Sa première parole parmi sept sur la croix, avait été une prière demandant la pitié pour ceux qui l'ont crucifié. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Après ça, il y a un des criminels qui repente et Jésus lui offre le paradis comme un don gratuit. Après ça, dans une autre démonstration de son amour, il prend soin des besoins d'encore une autre personne, cette fois-ci sa mère, et il demande à Jean de prendre soin de sa mère. Et depuis son arrestation, la nuit auparavant, il avait passé une nuit blanche, il n'a pas tout dormi. Il a passé en jugement 6 fois différents, devant 6 tribunaux différents. Il a été battu, moqué, craché dessus, dénudé, pendu là maintenant sur un bois comme le pire des criminels. Et jusqu'à présent, il n'a même pas une seule fois exprimé sa douleur ou dénoncé l'injustice qu'il subissait. Pas même une seule fois. En effet, il était maltraité et opprimé, Ésaïe 53 nous dit, et il n'a point, quoi, ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe 53, verset 7. Et finalement, après des heures et des heures et des heures, il tourne l'attention vers son propre état et il crie « J'ai soif ». Et je vous assure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'a pas dit cela afin de soulager sa douleur. Jésus connaissait Psaume 69, verset 22, qui dit « Et pour apaiser ma soif, il me donne où il m'abreuve de vinaigre. Et maintenant, regardez notre texte, Jean 19, verset 28. Regardez-le, s'il vous plaît. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consumé, tout sauf une des prophéties, et donc il prend la parole et dit, afin que l'écriture fût accomplie. C'est-à-dire pour mettre en marche l'accomplissement de cette dernière prophétie. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Tiens, ça c'est intéressant, n'est-ce pas? C'est comme si Dieu avait tout préparé. Même le vase de vinaigre. Et les soldats remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Regardez le verset 30. Et quand Jésus eut pris le vinaigre. Voilà, voilà. La dernière prophétie est maintenant accomplie. Et donc Jésus reprend la parole et il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Vous voyez ce qu'il fait là? Attaché à la croix, mourant au bout de son sang, il prend une mesure délibérée pour assurer que cette prophétie soit accomplie. Il y avait beaucoup de prophéties, même la plupart, dans l'accomplissement desquelles Jésus n'a pris aucun rôle actif. Il ne s'est pas trahi, il ne s'est pas vendu pour 30 pièces d'argent, il ne s'est pas maltraité, il ne s'est pas crucifié, et même ici, il n'a pas préparé le vinaigre, il ne l'a pas pris lui-même pour boire. Pourtant, nous trouvons Jésus-Christ à la fin de sa vie, pas simplement ne résistant pas, pas simplement supportant passivement, mais activement participant à la réalisation de la prophétie. J'imagine que c'est pendant ces 3 heures où la Bible dit qu'il y a eu des ténèbres sur toute la terre, que Jésus pensait à Moïse, et qu'il pensait aux prophètes, il pensait aux psaumes, et il énumérait dans son esprit toutes les prophéties. Ah oui, celle-là est accomplie. Ah, celle-là est accomplie. Ah, regarde le vase de vinaigre. Cette prophétie-là n'est pas encore accomplie. Le psaume 69, verset 22. Et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Et donc, il dit, le texte nous dit, pour que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Voyez, il voulait se conformer à la parole de Dieu, même dans la souffrance. Alors c'est quoi l'application pour nous ce matin? Eh bien, on peut dire d'abord que c'est une preuve de la vérité de l'Écriture. Parce que si vous regardez toutes ces prophéties dans l'Ancien Testament, ils ont été accomplis même au moindre détail. Et pour dire la même chose, mais dans l'autre sens, c'est une preuve que Jésus était le Sauveur promis. C'est lui seul, et pendant toute l'histoire, il n'y a qu'un homme qui a accompli toutes ses prophéties, et c'est Jésus le Christ, Jésus de Nazareth. Alors si vous êtes ici ce matin et vous avez des doutes concernant qui est Jésus, ce qu'il a fait, son identité, sa puissance, je peux vous assurer que les prophéties de l'Ancien Testament sont une preuve qu'il est vraiment le Messie envoyé par Dieu. Et puis aux croyants, on peut dire que c'est un exemple à suivre. Et moi je vois 2 choses. D'abord, un exemple de voir la main de la providence divine derrière chaque circonstance humaine. Quand vous êtes, si vous êtes comme moi, quand vous êtes dans des circonstances troublantes et difficiles, souvent on pense que aux circonstances. Mais sur quoi Jésus méditait-il lorsqu'il était là sur la croix dans une telle agonie? Est-ce qu'il pensait simplement à l'agonie? La réponse est claire. Ce fut sur le fait que tout était déjà consumé. Vous voyez, il savait. Il pensait à ça même sur la croix. Le plan de Dieu, les prophéties de Dieu, la main de Dieu. Voilà, tout maintenant est accompli. Il pouvait regarder au-delà de la douleur pour voir le plan de Dieu et la main de Dieu accomplissant sa volonté. Si nous savons que toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu, nous acceptons ce fait. Toute chose concourt au bien. Bon, il faut s'apprendre à regarder au-delà de toute chose pour voir le bien. Et puis aussi, je crois, c'est un exemple pour nous d'être résolus. à se conformer aux Écritures même au milieu de la souffrance. Parce que c'est pourquoi Jésus a dit ce qu'il a dit, afin de se conformer à la Bible. Il était résolu à précipiter la réalisation de la dernière prophétie, et c'est pourquoi il a dit « J'ai soif ». Sa nourriture était de faire la volonté de Dieu et de l'avoir accomplie même pendant sa vie. Et nous devons faire le même. Dans des temps difficiles, dans des circonstances accablantes, nous devons nous demander comment est-ce que je peux me conformer à la parole et à la volonté de Dieu. Mais l'application primaire, je crois, doit être une adoration humble et sincère, et une gratitude sincère quand nous considérons que Christ a connu la soif et a souffert de telles agonies pour moi, parce qu'il vous aime. Et c'est pour cela que nous sommes réunis ce matin. Je prie que Dieu nous aide à le faire d'une manière digne de lui.